Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation le dernier vendredi du mois. Guy Lepolarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche, qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bien, bonjour Guy, bonjour à tous.
Voilà, merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Jean-Patrick Manchette, au sommaire de ce Variation en noir. Hervé, à l'occasion de la publication aux éditions La Table Ronde de sa correspondance, les lettres qu'il a envoyées, archivées par ses soins entre 1977 et 1995. L'éditeur a intitulé cette correspondance « Lettres du mauvais temps ». Nous y reviendrons. 25 ans après la disparition de celui qui a pulvérisé la frontière entre littérature de genre et littérature tout court, pour citer le dictionnaire des littératures policières. 25 ans après la disparition de Manchette, c'est un document important qui nous est ainsi donné à lire pour connaître encore mieux celui qui est considéré comme le fondateur, au début des années 1970, de ce que l'on a appelé le néopolar, roman noir témoin de son temps, pour reprendre la célèbre formule de Manchette, roman noir social, critique de la vie quotidienne et résolument politique, pour citer à nouveau le dictionnaire des littératures policières. Hervé, peut-être avant tout resituer Jean-Patrick Manchette. Je vais lire ce qui apparaît sur la couverture de ce recueil de lettres du mauvais temps, correspondance 1977-1995. Jean-Patrick Manchette, 1942-1995, grand prix de littérature policière en 1973, est reconnu comme le principal rénovateur du roman noir français au cours des années 1970-1980. Chroniqueur, scénariste et traducteur, passionné de jazz, de cinéma et de littérature, il a laissé 10 romans publiés dans la série noire, dont Le Petit Bleu de la Côte Ouest, 1977, et La Position du Tireur Couché, 1981. Plusieurs de ses livres ont été adaptés au cinéma, notamment par Claude Chabrol, Nada, en 1974, et par Jacques Deray, Trois hommes à abattre, en 1980. La publication posthume de ces textes inédits est venu confirmer sa place au premier rang des écrivains français de la seconde moitié du XXe siècle. Hervé, un commentaire par rapport à cette présentation de Jean-Patrick Manchette ?
Oui, la présentation, elle est évidemment elle est lapidaire, mais elle est comme l'est une présentation, mais elle est juste. Jean-Patrick Manchette, je crois qu'au tout début, c'était un grand lecteur de littérature, un grand lecteur de romans noirs américains notamment, mais je crois dans les années 60, il se destine d'abord au cinéma, qui est une de ses passions. Ses chroniques cinématographiques sont reparues également chez Wombat sous le titre Les yeux de la momie. Il va faire pendant les années 60, il va faire des scénarios, y compris des scénarios pour les films de l'inénarrable Max Pécasse, qui sont des trucs érotique d'un intérêt assez limité. Manchette gagne sa vie. Il est traducteur. Il a traduit des gens comme Robert Bloch. Ce travail de traduction, il le continuera évidemment pour la matérielle, mais aussi pour le plaisir. On en reparlera, mais il traduira Donald Wesley, Gross Thomas, Et puis il fait une série de travaux alimentaires. Il va écrire aussi, je crois. crois qu'il va faire le nègre pour différents pour des éditeurs. Il écrit la série avec Michel Levine, la série pour adolescents des Globetrotters. Et il novélise aussi deux romans dont
deux scénarios, de films.
Et notamment sous le nom de Pierre Duchesne, et notamment Sacco et Vanzetti, qu'il fait d'ailleurs avec brio, et parce que évidemment l'histoire de ces deux anarchistes américains immigrés condamnés à tort au début des années 20, c'est une histoire qui intéresse le critique radical qu'il est, c'est quelqu'un, on parlera peut-être de Manchette et de la politique, ce qui est important. Mais voilà, il a toujours aimé le roman noir, vers 70, par là, il va écrire. Au début, je crois que l'idée était celle de faire un film inspiré de l'affaire Ben Barka, qui est un opposant marocain enlevé à Paris, une collaboration certainement des services des deux pays, enlevé et disparu, bien sûr. Je crois que c'est l'idée d'un film de Jean-Pierre Bastide, et en fait, ça va donner un roman qui est le premier roman publié sous le nom de Jean-Patrick Manchette à la série noire, qui est l'affaire Angustro. Et c'est marrant parce que en 1971, Manchette notait à propos de ce livre: j'écris des polars pour le blé. Bon, mais il y a d'autres façons de gagner du blé. Pourquoi les polars? Cela me permet en même temps de manifester la violence latente de notre société. L'histoire de gangsters ne m'intéresse pas, mais l'histoire politique à un niveau ou un autre. Je te rends la parole, mais pour dire que quand Manchette apparaît comme ça en 1971 avec l'affaire Angustro, oui, il bouleverse le paysage du polar français, il y a évidemment toujours du roman policier, de mystère, d'énigmes, de qualité ou pas, bon, ça c'est une autre histoire. Il y a à la série noire, côté français, il y a eu surabondance de récits de gangsters, de récits basés à Pigalle, dont les romans, alors certains évidemment ont brillé par le... ont eu un grand brio comme Simonin et son usage de l'humour, mais il y a, le crépuscule de ça, c'est un peu les polars de Truand, Désenchanté, de José Giovanni. Alors, il y a quelques francs-tireurs, on en parlera, comme Pierre Signac, évidemment comme Jean Amila, qu'on connaît bien, mais Manchette, c'est une jeune génération qui va absolument bouleverser et le contexte sociopolitique des romans, du roman noir, et aussi, et ça c'est très important, l'écriture. Ça, dès les premières pages de romans comme l'affaire Angustro ou Nada ou Le Petit Bleu, on se rend compte de ça. C'est une véritable révolution stylistique.
Oui, Hervé, donc tu disais le roman noir, la passion pour le roman noir, mais j'irais peut-être même plus loin, c'est une passion aussi pour la série noire, ce qui peut d'ailleurs être un petit peu contradictoire avec ce que tu viens d'évoquer, et parce qu'on aurait pu, par cette innovation dans le roman noir que Manchette apporte, l'imaginer peut-être chez un dans une autre collection que la série noire, avec tout ce passif quelque part, mais il y a aussi un attachement à cette collection finalement très très populaire. Alors,
y a juste là-dessus, parce que c'est important, on s'en rend compte quand on lit un autre livre de Manchette qui pour moi est également primordial, qui est vraiment un guide, c'est les chroniques. Qui reprend les chroniques que d'abord sous le pseudonyme de Chuteau Edline et puis après sous son vrai nom il avait tenu dans Charlie Mensuel, dans les, au cours des années 70, puis après des chroniques qu'il va continuer dans les, dans différentes livraisons, enfin, formes de la revue Polar, notamment, et ces chroniques qui sont parues chez Rivage, elles montrent que Manchette a été un lecteur très attentif de, notamment de la série noire, mais surtout le plus passionnant, c'est ses critiques et ses développements sur le polar anglo-saxon, notamment. C'est-à-dire que, quelles que soient ses réserves sur les Français, que ce soit ceux du, disons, ceux qui ont été une décennie ou deux avant lui, ou que ce soit ses contemporains, puisque Manchette a parfois eu la dent dure, mais en même temps aussi a salué joliment certains écrivains. Mais il est surtout, il rend un hommage évidemment aux maîtres du genre que sont Dashiell Hammett et Raymond Chandler, mais aussi à tout un nombre d'écrivains de la série noire, y compris, il va même parfois repérer des gens qui n'ont fait qu'un ou deux livres et qui ne sont pas connus du tout. C'est un lecteur très attentif. Mais pour finir, l'affaire Angustrow, je crois savoir qu'elle elle a d'abord été envoyée chez Albin Michel, où on dirait aujourd'hui que le texte a été jugé trop clivant. À la série noire, il n'a pas fait, son livre, son manuscrit n'a pas fait l'unanimité, je crois qu'il a dû un peu le retravailler d'ailleurs, mais Marcel Duhamel a dit, bon, ça, en gros, ça vaut le coup, et je crois qu'il a ces mots, il faut tenter l'aventure, l'aventure Manchette. Je pense que Marcel Duhamel s'est pas trompé sur ce coup-là.
Tout à fait. On reparlera aussi de Fatal, un de ses romans qui a été refusé par la série noire. Mais peut-être pour resituer donc ce livre, cette correspondance éditée par la Table Ronde. Bon, on connaît déjà beaucoup de choses de Manchette. Tu l'as dit, des recueils de chroniques ont été édités. Cinéma, polar, etc. Son journal aussi a été édité. Ce recueil, cette correspondance, elle permet peut-être d'affiner la connaissance, l'approche de Jean-Patrick Manchette, et sous un angle un peu intime, j'ai envie de dire, sans bien entendu, sans aucun voyeurisme, bien au contraire. Et permet d'appréhender peut-être un peu mieux l'homme, Jean-Patrick Manchette, le romancier aussi, et puis l'homme de lettres, théoricien, j'ai envie de dire, hein, tout cela étant bien entendu entremêlé, puisque c'est un ensemble, c'est un tout, c'est une vie dédiée à l'écriture et au roman noir, celle de Manchette. On s'en rend compte vraiment avec cette correspondance. Alors peut-être pour un mot sur l'homme Hervé, donc Manchette, bon, icône, une statue qui paraît indéboulonnable, quelqu'un, tu l'as dit,
oui,
aussi.
Oui, qui dans un même mouvement, je pense, bon, ne lui déplaisait pas totalement, mais en même temps, ce contre quoi il s'inscrivait également, puisque de par son intelligence et de par, j'allais dire, ses idées de critique politique, disons, Manchette n'était pas trop du genre à aimer les icônes.
Voilà, oui. Et donc, on s'aperçoit dans cette correspondance, au travers de certaines lettres avec d'autres écrivains, d'une réelles amitiés, de complicité, beaucoup de politesse, hein, beaucoup de formules de politesse. Alors bon, quand c'est avec des amis écrivains comme Pierre Signac, comme Ross Thomas, Donald Westlake, Paco Ignacio Segundo, elles sont jolies mais complètement sincères. Il y en a d'autres qui sont très très acerbes. Il associe aussi Mélissa Manchette, sa femme, souvent donc à ses formules de politesse en direction des voilà des écrivains dont il se sent proche, Robin Cook aussi. Hein, donc on sent vraiment voilà quelqu'un qui a des amitiés fortes, qui les partage vraiment avec beaucoup de complicité. Et ça, c'est une surprise un peu peut-être quand on lit toutes ces lettres, Hervé.
Ben, c'est une surprise et en tout cas c'est une ce qui est une excellente chose avec ces lettres qui évidemment répercutent de l'intime, même si Manchette, il faut dire, ces lettres sont aussi un régal parce qu'il écrit on sent que ses lettres, c'est un perfectionniste hein, de toute façon, et on sent que ses lettres sont soignées. Parfois, il le dit plusieurs fois, il s'excuse de ne pas avoir répondu très vite. Et d'ailleurs, il conseille aux gens à qui il s'adresse, aux amis à qui il s'adresse ou autres, de ne pas forcément répondre très vite non plus. Mais il prend le temps. Mais en même temps, ça tord le cou à une idée reçue qui est assez agaçante, qui était que Manchette était quelqu'un d'extrêmement froid. Ce qui n'est pas le cas. Et effectivement, comme tu le dis, qu'il écrive à des pères, enfin comme à quelqu'un comme Pierre Signac, la correspondance avec Pierre Signac est merveilleuse. Enfin, ça parle à la fois en profondeur de littérature, de cinéma, du métier qu'ils exercent, des livres qu'ils aiment, mais aussi de vie quotidienne. C'est très chaleureux, quoi, c'est ça, et le terme de chaleureux peut être employé. Il y a d'ailleurs une lettre, par exemple, moi j'ignorais cette amitié avec Philippe Labro, qui écrit des choses assez éloignées de Manchette quand même, et dont le personnage est éloigné aussi, et on sent là aussi une chaleur humaine, Manchette a y compris parlé du lapin à la moutarde qu'il préparera quand il sera plus en forme pour un dîner à la maison, les échanges avec Michel Lebrun, avec Robin Cook,
Jean Echenoz,
bien évidemment, et ce qui est remarquable aussi, c'est que on lui a parfois reproché d'ailleurs d'avoir, il pouvait être assez intransigeant, hein, mais ça on le sait bien, mais d'avoir la dent dure. Moi, ce qui me frappe aussi dans cette correspondance, c'est la générosité qu'il manifeste. C'est-à-dire que par rapport à Pierre Signac, qui vit un peu en ermite retiré, qui a commencé à écrire avant Manchette, qui est retiré un peu dans sa campagne et tout, et qui se tient loin de la société, disons, il essaye de placer ses livres pour que ça fasse des bons scénarios, il conseille également Robin Cook, il veut si possible faire traduire des auteurs, ou les faire traduire en français, ou les faire connaître s'il le peut outre-Atlantique. Enfin, il déploie une extrême générosité. Je trouve ça
Oui, alors une petite.
Ça n'est pas du tout. Il n'est pas dans sa tour d'ivoire. Il n'est pas méprisant vis-à-vis de des gens qu'il estime. Voilà. Évidemment, il peut être méprisant vis-à-vis des gens qu'il n'estime pas. Ça, c'est très clair. Comme l'économiste théoricien de la Quatrième Internationale, Ernest Mandel.
Oui. Alors, par rapport à Pierre Signac, c'est vrai que il faut situer cette correspondance donc de 1977 à 1995. Année de la mort de Jean-Patrick Manchette. C'est à partir de 1977 qu'il a commencé à faire des copies des courriers qu'il envoyait, ce qui explique pourquoi cette correspondance débute là. Et jusqu'en 1981, il y a vraiment des échanges très régulier avec Pierre Signac. Ils s'échangent aussi, enfin, ils partagent des parties d'échecs par correspondance. Ça se faisait, je pense, à l'époque, on en est loin, mais on jouait des parties d'échecs par correspondance. Ils le faisaient avec donc Pierre Signac. Et puis, bon, ça s'arrête en 1981, cette correspondance. Alors, est-ce que d'autres lettres n'ont pas été reproduites? S'est-il passé quelque chose? On peut penser peut-être que Manchette était chagriné, comme il le dit, de la signature de Signac pour un appel, pour un appel d'un comité pour l'identité nationale, qui avait été signé, donc je le disais, par Signac. Mais on a du mal à penser que leur relation se soit arrêtée comme ça, Hervé.
Moi, j'ai du mal à le penser. Je vais essayer de me renseigner pour savoir pourquoi. D'autant que Manchette, quand il a des désaccords, les exprime. Mais Manchette est fidèle en amitié, y compris. On sait qu'il a. Il a entretenu en tout cas au moins des relations extrêmement cordiales avec ADG. Mmh. Et puis, pour Pierre Signac, où la relation est vraiment très, très forte, enfin, les lettres, comme tu dis, sont vraiment marquantes pour ça, j'ai quand même regardé dans ces chroniques littéraires, Manchette, jusqu'au bout, continuera à dire à ses interlocuteurs et à ses lecteurs le plus grand bien de Pierre Signac, dont il recommandera toujours la lecture, Signac étant un oublié du polar français, ce qui est une grande injustice. Et donc, Pierre Signac, hein, pour Signac, notamment, c'est l'auteur de très nombreux livres, mais aussi de la série de Lugine Ferman et la Clauduc, qui a beaucoup, beaucoup impressionné Manchette, justement. Qui d'ailleurs, dans une lettre, et ça aussi, on n'en a pas forcément l'habitude ou l'idée, se fait tout à fait modeste vis-à-vis de Signac. Mmh.
Écoutez Radio PFM, Variation en noir, Variation en noir consacrée à la correspondance 1977-1995 de Jean-Patrick Manchette, Lettre du mauvais temps. Hervé, je te laisse.
On croirait reconnaître du jazz West Coast qui n'aurait pas déplu à Jean-Patrick Manchette, qui a été lui-même contrebassiste et saxophoniste, et qui, évidemment, adorait le jazz, et notamment ce jazz-là, ce jazz-là qui est très présent dans un roman qui, je l'avoue, est un de mes grands chouchous, qui est le Petit Bleu de la Côte Ouest.
Voilà, écoute.
Qui écoute Gerfaut qui tourne sur l'autoroute, ce cadre au début de ce roman.
Ce roman. Et à la fin.
Et à la fin, bien sûr.
Et, la boucle. Et je pense qu'on peut le dire, hein, parce que c'est quand même un roman qui est aujourd'hui connu, qui a été adapté d'ailleurs bon, au cinéma bien sûr, mais surtout en bande dessinée par notamment Tardi. Et on peut signaler que il y a une réédition de l'intégrale des manchettes Tardi. Il y en a trois hein, chez Futuropolis à l'occasion là des 25 ans de la disparition de Jean-Patrick Manchette. Il y a un certain nombre de republications ou de nouvelles publications hein, de autour de manchettes. Alors cet extrait.
Oui, si tu me, je vas-y, veux juste vas-y. Dire un mot, il y a parmi ces republications, il y a par exemple l'affaire Angustro qui ressort en série noire et avec une préface très tout à fait intéressante et très justifiée de Nicolas Le Fleg. Nicolas Le Fleg, c'est un assez jeune homme qui a enseigné en lycée, qui maintenant enseigne à l'université de Bordeaux, à qui on doit la coordination avec Gilles Magnon d'un essai paru il y a quelques années chez Anacharsis, Jean-Patrick Manchette et la raison d'écrire, et Nicolas Fleck, il fait une thèse actuellement sur Manchette et la politique, je crois, et par ailleurs, il est à l'origine, avec Jeanne Guyon des éditions Rivage et avec Doug Edline, le fils de Manchette, de l'édition de ces lettres du mauvais temps dont nous parlons depuis tout à l'heure. Et je voulais dire une chose, c'est que à un moment, parce qu'on parle de, on resitue Manchette dans l'histoire du roman noir, son originalité, mais il commence son texte, lui qui l'a découvert beaucoup plus tard que nous pour des raisons d'âge, il commence comme ça, de manière manchettienne, hein, et parfois il arrive ceci, c'est l'hiver et il fait nuit. On a un peu plus de 20 ans et on ouvre par hasard un roman écrit par un auteur disparu depuis une bonne dizaine d'années. On ne sait rien de lui. Plus loin, on se tient juste là, seul face à la position du tireur couché de Jean-Patrick Manchette, et lorsqu'on referme le roman, saisi par le vent glacé qui traverse l'œuvre, on frissonne de plaisir et d'admiration. Et il termine ce paragraphe-là, lui qui est enseignant, en disant « Viendront d'autres lecteurs qui seront à leur tour saisis. Mettez d'ailleurs ces romans entre les mains de lycéens ou d'étudiants, voyez-les rire, réfléchir et s'enthousiasmer. Il nous rappelle que cette œuvre n'a pas pris une ride. » Et je trouve ça une excellente manière d'évoquer l'actualité de Manchette, enfin du texte, des textes de Manchette.
Voilà. Donc, alors c'est cette illustration musicale hein, que tu as suggérée, Hervé, et puis effectivement, ce que tu viens de dire vont nous amener à parler du romancier et de son œuvre. Manchette, en fin de compte, je pense qu'on pourrait en parler des heures. Hervé, on n'aura pas le temps d'évoquer tous ces aspects, hein, et notamment le politique, hein, le Manchette qui expliquait que son regard sur le monde est anarcho marxiste, la référence au situationnisme, etc. Mais c'est son œuvre finalement qui compte, et donc je te propose, Hervé, de revenir hein, là-dessus au travers de bien sûr sa correspondance, mais aussi au travers de nos lectures. Donc nous l'avons compris, ton roman préféré de Manchette, ton chouchou, c'est Le Petit Bleu de la Côte Ouest, comme beaucoup. Personnellement, bon, je suis aussi fan de ce roman. Bon, il faut aussi peut-être dire un mot de la position du tireur couché, dont l'écriture et la publication apparaît et commentée dans les lettres, hein, puisque la position du tireur couché, c'est 1981, donc la correspondance, elle, débute en 1977. Et du coup, ça donne aussi envie d'y retourner. Et donc, moi, j'ai lu, relu, bien sûr, la position du tireur couché. Et on lit avec un autre regard, une fois avoir lu ces lettres et les explications quasi théoriques hein, de la construction de son roman, Hervé.
Oui, bah, je crois que c'est ce que tu dis. Je crois que c'est un roman dans lequel il arrive. Manchette pousse à l'extrême ce travail sur l'écriture, ce côté assez épuré, qui est à la fois influencé ses références littéraires, c'est évidemment le behaviorisme, le comportementalisme de Dashiell Hammett notamment, mais également les grands naturalistes français du 19e, c'est-à-dire Flaubert, Maupassant, et leur période, enfin ce qu'il appellera un peu décadente, c'est-à-dire des gens comme Huysmans. Voilà, c'est quand même parmi les références de Manchette, c'est les grandes références. Oui. Et là, par rapport à cette série d'une dizaine de romans noirs se situant dans l'Hexagone, dans la France de ces années 70, je pense qu'avec la position du terreur couché, qui effectivement est une sorte de diamant qu'on a rendu le plus épuisant, le plus brillant, le plus beau possible, il arrive au bout de ce travail là et après, bon, il y a l'épisode fatal, mais après il va y avoir une autre chose d'envergure, c'est-à-dire que Manchette va se tourner, notamment à la lecture et avec les échanges avec l'écrivain américain Ross Thomas, mais il va se tourner vers l'idée d'une grande fresque qui aurait dû s'appeler Les gens du mauvais temps, ce qui fait écho évidemment aux lettres du mauvais temps dont on parle. Et dont nous n'aurons que le début, qui est un roman que Rivage avait publié, qui est La princesse du sang, qui a été adapté en bande dessinée par Cabane et Doug Edline. Mais voilà, et où là, on Manchette passait à un autre type de roman plus international, plus foisonnant, marqué aussi par Ross Thomas, aussi par la lecture de John le Carré, enfin voilà.
Oui, l'aventure, l'espionnage, relations géopolitiques, internationales. C'est vrai qu'on est surpris dans ces lettres, en fin de compte, cette correspondance, c'est aussi la chronique justement de ce travail inachevé. À partir de 1981, Manchette en parle et jusqu'à sa mort en 1995, il évoque toujours ce travail qui est sur sa table avec des idées qui avancent, il envoie le bout, parfois il évoque 2-3 mois de travail encore, et puis il y a toujours un événement, soit un problème de santé, un problème familial qui reporte l'échéance, et un cycle et des romans qui ne seront jamais terminés.
Oui, parce que Manchette, en fait, il ne s'arrête pas pendant ces années 80. On a beaucoup glosé sur le silence de Manchette. Au même moment, dans le même mouvement, où le moindre mot qu'il disait avait un écho considérable, on a du mal à imaginer aujourd'hui quand même que, alors que François Guérif avait fait traduire James Ellroy, le premier roman, L'une sanglante, ne recevait aucun écho, ni critique, ni public, et Manchette, qui a été enthousiasmé par ce livre, qu'il conseille d'ailleurs dans sa correspondance à différents interlocuteurs, il va faire une page dans Libération pour dire lisez L'une sanglante de Ellroy, et dès le lendemain ça va être une ruée dans les librairies et dans les Fnac les semaines qui suivent, et le livre va faire un tabac, ce qui est quand même une chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais c'était une réalité. Par ailleurs, il a des activités de scénariste dans la BD, il a fait des chroniques de jeux, et Manchette, je peux très modestement en témoigner, on pouvait lui demander un texte en se disant...
Oui, Hervé, je vais oser. Oui. Non mais Hervé, justement, je voulais y venir, parce qu'on a beaucoup de choses, on aimerait en parler encore longtemps, mais l'émission se termine, Hervé, et je voulais justement aborder cet aspect. Tu as eu l'occasion d'échanger avec Jean-Patrick Manchette, Hervé.
Oh, bah pour le faire très vite, hein, puis c'est pas l'important, mais je veux dire, en 1991, avec Didier Deninck et Robert Deleuze, on s'occupait d'un festival, La ville est un roman, en Seine-Saint-Denis, et qui était accompagné d'un porte, l'idée était de l'accompagner d'un portfolio qui a été édité par De Noël, et à l'intérieur, il y avait un journal des 15 décennies qui prenait l'idée que le polar était né en 1841, et là on était en mai 91, et pour l'année 1921, j'avais eu l'idée de demander un texte sur la prohibition et son contexte à Jean-Patrick Manchette, et donc je l'avais appelé j'étais un peu craintif, dirons-nous, enfin très impressionné, et puis en fait, la conversation a duré un certain temps, nous nous sommes mis à parler des Industrial Workers of the World, le syndicat révolutionnaire américain, très important dans les années 1910, dont fut membre Joe Hill, etc., et qui fut très fortement réprimé au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est un sujet qui passionnait Manchette, que je connaissais un peu, donc c'était plaisant comme ça un matin d'échanger là-dessus, et puis ce fut banco, et puis quelques jours après, une lettre arriva, et il y avait l'article que nous avons publié, et qui était fait pour un journal, mais qui était passionnant, brillant, contextualisant la prohibition, le gangstérisme, la manière dont il gangréna la société américaine, le syndicat IWW, etc. Et Manchette s'était montré à la fois... faisait ce qu'il disait qu'il allait faire, et par ailleurs s'était montré chaleureux. On s'est... téléphoné quelques fois, notamment au moment de la création du mouvement Banana.
Voilà, je pense qu'on conclura là-dessus.
Jamais rencontré. Ouais.
Voilà, on conclura là-dessus. Hervé Banana, une opération. Bon, moi, quand j'ai lu les courriers, justement, il expliquait un petit peu son engagement et le jet de pur de banane devant les forces de police. Ça résonne de l'actualité récente des manifestations contre les violences policières, complètement. Et puis avec un engagement personnel,
Oui.
Très 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 surprenant, un petit peu dadaïste, hein, il le dit lui-même, quoi, mais
complètement c'était en 1993, je crois, c'est au lendemain de la mort d'un jeune Makome Mbowole tué au commissariat des Grandes Carrières dans le 18e arrondissement par des policiers. Comme quoi, l'histoire se répète depuis longtemps. Il y avait eu après, évidemment, des manifestations assez remuantes dans le quartier. Jean-Patrick Manchette réagit à sa manière. Il va, effectivement, il crée avec quelques amis, dont Jean Echenoz, d'ailleurs, le mouvement Banana, et lui-même va, effectivement, lui qui était... qui sortait peu de chez lui.
Il était agoraphobe, oui, voilà.
Oui, complètement, qui était assez malade aussi. Et il va mettre des pots de bananes sous les, comme tu dis, c'est sous les pieds des flics. Et comme tu dis, c'est une sa façon dadaïste à lui, très personnelle d'agir. Il va faire aussi, avant que le terme soit mis plus à la mode, il va faire du cop-watching, puisque il prendra, lui, comme ça, sortant anonyme, n'ayant pas l'air d'un activiste, il va individuellement prendre son appareil photo, il va prendre en photo un certain nombre de membres de la brigade anticriminalité de ce commissariat et de ses alentours, et qui seront, disons, diffusés par les soins d'amis avec qui il est resté en relation dans certaines mouvances un peu radicales. Et ça fera des affichettes qui, évidemment, ne plairont pas beaucoup à la maréchaussée. Mais c'était sa manière très personnelle à lui d'être à la fois rester un individu irréductible et à la fois d'être totalement impliqué jusqu'au bout et intéressé par le monde.
Alors donc voilà, Manchette, Hervé, lettre du mauvais temps, correspondance 1977-1995, on aurait pu encore en parler très longuement, mais c'est à,
oui,
à découvrir.
Oui, désolé d'avoir été si bavard, cher Guy.
Ah non, au contraire, au contraire. Et donc, nous vous recommandons bien entendu la lecture de ces lettres, mais bien entendu aussi relire Manchette, et pour cela, bon, il y a un quarto des éditions Gallimard, avec ça s'appelle Roman Noir, Manchette Roman Noir, avec tous ces romans, des documents, une BD aussi, Griffu, dont il a signé le scénario pour Tardy.
Oui, Futuropolis republie aussi l'intégrale avec de l'adaptation de Tardy, enfin, oui.
Et puis donc, Le Petit Bleu de la Côte Ouest, en particulier.
Oui.
C'était Variation en Noir dans Variation, le dernier vendredi du mois, une émission de Radio PFM réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir Guy, au revoir à tous. Très bonnes vacances.
Voilà,
bonne
bel été.
Car je crois que nous faisons une pause.
Voilà, bel été à toutes et à tous, avec de très bonnes lectures, en noir ou pas. Et n'hésitez pas à emmener du Manchette. Et puis donc, Hervé, rendez-vous en septembre.
Eh bien, oui, en septembre pour de nouvelles aventures polars.